Top, shalom les coulam, boker tov les coulam. Et effectivement, dernier cours avant le prochain. Je sais que ça va pas être sympa de ma part, mais comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je fais quelque chose de très très moche puisque je vais lancer un cours qui appelle la deuxième partie. Et la deuxième partie, eh bien, on ne l'aura qu'après la pause estivale. Et donc, vous serez dans un suspense insoutenable pendant des jours interminables. Je viens de passer le Shabbat le plus long de l'année, un Shabbat qui terminait à 22h47, c'est pas fait pour être en Chutz La'aretz la Torah, je vous le dis. Je vous le dis. Ça va pas, qu'est-ce qui se passe? C'est pas une horaire de faire Mincha à 9h30 du soir, c'est pas une horaire. En tout cas, les amis, nous rentrons directement dans notre vif du sujet. Nous sommes au 18e siècle. Et au XVIIIe siècle, eh bien, il y a un monument qu'il va falloir tout de suite aborder. Ça y est, on l'attendait depuis longtemps. On a parlé du Ramchal, on a parlé du Gaon de Vilna. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'allait pas y échapper. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme très particulier parce que finalement, on ne connaît pas grand-chose de lui. Et on va commencer par cela. C'est un homme qui va métamorphoser l'enseignement de la Torah et des secrets de la Torah, qui va avoir une influence considérable sur le visage du judaïsme jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Et pourtant, c'est quelqu'un dont on ne connaît que très, très peu de choses. Je vais même vous dire mieux que ça. Pendant très longtemps, on n'était même pas sûr qu'il a vraiment existé. Eh oui, je veux parler évidemment d'un homme qui s'appelle Rabbi Israël Ben Eliezer, ou alors plus connu sous un nom qui va peut-être devenir son nom de famille, pas clair, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il est temps de parler du Baal Shem Tov. Est-ce que cet homme a véritablement existé? Eh bien, les amis, heureusement, aujourd'hui, on a retrouvé les registres officiels de la ville de Megibouge. Eh oui, Megibouge en actuelle Ukraine. Alors, il ne vient pas de là-bas. Il n'est pas né à Megibouge, absolument pas, puisque lui, il va naître dans une autre région complètement de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, mais il va bouger énormément. Il vient de Moldavie à la base, et finalement, il va aller s'installer à Megibouge. À Megibouge, on a retrouvé les archives de la ville dans laquelle on fait état d'un rabbi Israël Balsam, Balshem, qui effectue le rôle de médecin. Rabbeinu Israël Balshem Tov était donc médecin. Est-ce qu'il guérissait en faisant des caméotes, en faisant des incantations, ou est-ce qu'il avait des connaissances de médecine? Les amis, gadol alay, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, quand on parle de Rabbi Israël Baal Shem Tov, j'aimerais qu'on commence, et ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude, puisque d'habitude, nous, on commence par l'enseignement historique du bonhomme, mais moi, je voudrais commencer tout de suite par une question. On parle du Baal Shem Tov comme étant un géant, évidemment, et on va voir quel va être le début de son influence, mais qui est son maître? De qui a-t-il étudié? C'est intéressant, cette histoire. Quand vous regardez sur Internet, et que vous regardez Baal Shem Tov, eh bien, vous aurez quels sont ses élèves, vous aurez son arbre généalogique familial, mais il n'y a pas marqué qui est son maître. De qui a-t-il appris? Eh bien, on n'en sait rien. Enfin, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de traditions chez les chassidim. Certains diront que son maître, c'était Rabbi Adam. Mais qu'est-ce que ça veut dire Rabbi Adam? Ça veut dire qu'on ne sait pas guiser. Et d'autres diront que le maître de Rabbi Israël Baal Shem Tov, quand je dis d'autres, c'est son élève qui le dira, Rabbi Israël Baal Shem Tov était l'élève, tenez-vous bien, de Achia Ashiloni. Achia Ashiloni, je parle, oui, vous avez bien compris, du prophète Achia Ashiloni, qui est le prophète du schisme, qui est le prophète qui a ordonné le schisme entre la royauté d'Israël et de Yehuda, qui a mis sur le trône Yerovam ben Nevat, Les amis, on est en moins 950 à peu près. Et le Baal Shem Tov, c'est quand même en 1700 et quelques. Ça veut dire que Arya Ashiloni a vécu il y a 2700 ans par rapport au Baal Shem Tov. Qu'est-ce que ça veut dire que Arya Ashiloni est le maître du Baal Shem Tov? Eh bien, on va commencer tout de suite par ce que représente la Torah du Baal Shem Tov. On reviendra un petit peu à son histoire après. La Torah du Baal Shem Tov, Rabotai, eh bien, c'est ce que le Rav Tzvi Yehuda Kouk appelait Torah Shiloh. Achia Ashiloni. La Torah de Shiloh, par rapport à la Torah du Gaon de Vilna, qu'on a étudiée la semaine dernière, qui était la Torah de Jérusalem. Mais quelle différence y a-t-il entre Shiloh et Jérusalem? Alors, vous le savez, à Jérusalem, il y avait le Beth Amikdash. À Shiloh, il y avait le Mishkan. Quelle est la grande différence? Eh bien, la grande différence, c'est qu'à Jérusalem, lorsqu'il y a le Beth Amikdash, Kadashim Kalim, c'est-à-dire les korbanot que tu peux consommer toi-même, doivent être consommés à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Alors qu'à l'époque de Shiloh, Kadashim Kalim peuvent être consommés Bechol Haroé. Ça veut dire quoi, Bechol Haroé? Ça veut dire que de n'importe quel endroit où tu peux voir Shiloh, tu peux manger les korbanot. Donc c'est beaucoup plus large. D'accord? On a même retrouvé dans le Shomron, dans la Samarie, on a retrouvé des murs dans un rayon plus ou moins le même par rapport à Shiloh, à des kilomètres de Shiloh, des murs que les archéologues n'arrivaient pas à comprendre à quoi ils pouvaient servir. Ce n'étaient pas des murs agricoles de terrasses, ce n'étaient pas des murs de ville, de bâtiments, de quoi que ce soit. C'était des murs qui semblaient être complètement paumés au milieu de rien. Jusqu'à ce que finalement le rave professeur Hagia Mitzur nous dise, mais regardez, ils ont tous la même distance de Shiloh et ils ont une autre particularité, c'est que de là, on peut voir Shiloh. Est-ce qu'il ne serait pas, il s'agirait pas de ces murs qui font état de l'endroit jusqu'où on peut manger les corbanotes à l'époque de Shiloh? Peut-être. En tout cas, c'est beaucoup plus éloigné que Jérusalem. Dit le Rav Tzvi Yehuda Kouk, eh bien, c'est la grande différence entre la Kedusha des Mitnagdim du Gaon de Vilna, qui voyaient la Torah et la sainteté à l'intérieur du Beth Amidrash, donc à l'intérieur des Chomot, face à la Kedusha, la sainteté du Baal Shem Tov, de son enseignement, qui dit qu'au contraire, on peut voir et ressentir la sainteté également à l'extérieur des murs du Beth Amidrash, à l'extérieur dans la nature. Donc on a ici une nouvelle façon de réfléchir. Mais attention, est-ce que le Baal Shem Tov fait partie des Mekoubalim? Kdushat HaTeva, certes, mais est-ce qu'on fait partie des Mekoubalim? Est-ce que, quand on va parler de la Chassidoute, ça a vraiment sa place dans l'enseignement de l'histoire de la Kabbalah, de la Yeshivon? Bon, faut savoir d'abord que le Baal Shem Tov s'est marié très jeune, et très jeune, il n'a pas été du tout. On n'aurait pas du tout pu penser qu'il deviendrait un grand kabbaliste ou un grand quoi que ce soit. C'est pas du tout ça qui ressort au départ. Au départ, il va se marier, ça ne marche pas, sa femme meurt très jeune et il n'a pas d'enfant, et finalement, il se mariera avec une deuxième épouse, et c'est de cette deuxième épouse qu'il y aura des descendants, mais encore une fois, c'est pas tellement ses descendants à lui qui vont avoir une influence, mais c'est ses élèves. En tout cas, la deuxième épouse de Rabbi Israël, qui s'appelle Hana, eh bien, elle va surtout lui permettre de rentrer en contact avec son beau-frère. Son beau-frère n'est autre que Rabbi Avraham Gershon Mikitov. Et Rabbi Avraham Gershon Mikitov, lui, a une importance considérable, parce qu'il va très vite partir en Eretz Israël. Il va lancer l'aliyah de ce qu'on va appeler l'aliyah des Chassidim. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de Chassidim alors qu'on est avant le Baal Shem Tov? En vérité, Rabbi Avraham Gershon Mikitov n'est pas un Chassid de la Chassidoute, Mais comme il est le beau-frère du Baal Shem Tov, alors on le met dedans. Mais en vérité, sa alia à lui n'a rien à voir avec la alia de 1777 des élèves du Baal Shem Tov, ça sera beaucoup plus tard. Mais Kitsour, finalement, vous savez que le Baal Shem Tov, on n'a que très peu d'enseignements officiels de lui. Eh oui, il a écrit, de ce qu'on est sûr, très très peu de choses. Très peu de choses. Ses élèves vont retranscrire sa Torah, pas de problème. Ils vont retranscrire sa Torah dans un livre qui va s'appeler, par exemple, Keter Shem Tov. C'est le livre le plus authentique des enseignements du Baal Shem Tov, mais ce n'est pas de lui. La seule trace écrite qu'on a de lui, et qu'on est sûr que c'est de lui, parce que c'est une trace qui a été signée de sa main, c'est une lettre qu'il envoie justement à son beau-frère, Rabbi Avraham Gershon Mikitov. Il lui envoie une lettre alors qu'il est déjà en Eretz Israël. Et cette lettre est fantastique parce que, est-ce que c'est la Providence qui nous a décidé cela? De la même façon que c'est le seul texte sûr qu'on a de lui, c'est également le texte le plus fondateur de son enseignement. Puisque dans ce texte, il raconte à son beau-frère qu'il a passé un Rosh Hashanah incroyable. Qu'il a passé un Rosh Hashanah incroyable et que le deuxième jour de Rosh Hashanah, il a fait une Aliyat Neshama. C'est-à-dire qu'il a réussi à sortir de son corps et il est parti se balader dans les mondes supérieurs. Pourquoi pas? Et il lui raconte qu'il est monté dans le Gan Eden à Elyon, mais il ne peut pas lui raconter ce qu'il a vu là-bas parce qu'on lui a fait promettre de ne pas raconter ce qu'il voit dans le Gan Eden à Elyon. Et finalement, il revient dans le Gan Eden à Tarton et il dit, mais là, par contre, on ne m'a pas fait promettre, donc je peux te raconter. Et il raconte que dans le Gan Eden à Tarton, il a vu plein de Neshamot, de Tzadikim, soit qui étaient déjà en vie, enfin, encore en vie, soit qui étaient déjà morts. Mais il dit, mais j'ai surtout rencontré le Mashiach. Ah bah oui. Ah oui, messieurs, dames. Et lorsque j'ai rencontré le Mashiach, je lui ai demandé. Bah alors, tu viens quand? Hein? Et Matai, Kaatemar. Et c'est là que le Mashiach lui a répondu cette phrase qui aujourd'hui est le slogan de tous les chassidim. Quand est-ce que je viens? Er Sheyafutsu Mayanotecha Achutsa. J'arrive lorsque tes sources sortiront à l'extérieur. Lorsque la Torah de la Chassidut, eh bien, sera l'apanage de tout le monde. À ce moment-là, je pourrais venir. Évidemment, tous les chassidim de Chabad aujourd'hui se revendiquent complètement de cette phrase-là et en disant qu'il faut étudier Torah ta Chassidut. Mais Rabotai, qu'est-ce que c'est que cette Torah ta Chassidut du Baal Shem Tov? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une nouveauté? De quoi parle-t-on? Lorsque finalement, eh bien, le Baal Shem Tov apparaît, on ne peut pas le détacher de son époque. L'époque du Baal Shem Tov, donc le 18e siècle, est une époque qui, pour nous, au sein du peuple juif, est terrible. On vient de passer les pogroms de Khmelnytsky, on vient de passer Chabtaï Tzvi, on est au moment où le Baal Shem Tov grandit, c'est l'époque de Yaakov Frank, Bekitsour, le moral des juifs est dans les chaussettes. Et il ne faut pas oublier une autre chose. C'est une grande erreur de penser que tous les juifs sont des érudits. L'écrasante majorité des juifs, à ce moment-là, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, et ils ne savent pas la Torah. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas religieux, mais ils ne connaissent rien. Et alors que jusqu'à présent, le seul moyen de se connecter à Dieu, c'était par l'étude, les gens, lorsqu'ils font face à des pogroms terribles, lorsque tu as la Torah et que tu peux te réfugier dans l'étude de la Torah au Beit HaMidrash, tu as une certaine consolation. Mais lorsque tu vis une période terrible et que tu n'as pas la possibilité de t'attacher au Beit HaMidrash, ben la période est juste terrible. Le Baal Shem Tov arrive et vient parler à la Neshama personnelle de chacun d'entre nous. Et dit, écoute, parce que tu as une Neshama, tu es connecté à Dieu. Tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Connecte-toi à celui qui connaît, tout va bien. En d'autres termes, le Baal Shem Tov va lancer un enseignement dans lequel c'est pas parce que tu n'es pas un grand érudit que tu ne peux pas être un juif ultra connecté à Dieu. Et ça, ça réconforte. Et n'oubliez pas qu'à ce moment-là, chez les Goyim, nous sommes dans l'époque de l'existentialisme. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'existence de l'individu retrouve une place très importante. Alors que dans la Renaissance, on ne parlait pas tellement de l'individu, on parlait particulièrement de la grandeur du cosmos, de l'espace. Là, on va se rattacher à l'individu. Le Baal Shem Tov donc parle à son époque pour rattacher le monsieur tout le monde, eh bien, j'ai envie de vous dire, à Dieu, tout simplement. Même si tu ne connais pas, même si tu ne sais pas lire. Du Baal Shem Tov, on raconte des dizaines d'histoires. Est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles ne sont pas vraies ? Nachon dira beaucoup plus tard un des descendants de la Chassidoute, Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, il dira, celui qui croit aux histoires chassidiques est stupide. Mais celui qui n'y croit pas est un apikoros. C'est-à-dire, si tu y crois tel quel, tu es bête. Mais si tu n'y crois pas du tout et que tu ne comprends pas qu'il y a un enseignement derrière, tu es un hérétique. Donc, il faut toujours apprendre à démêler le faux du vrai quand on parle du Baal Shem Tov et de la Chassidoute, de manière générale. Qu'est-ce qu'on raconte sur le Baal Shem Tov ? Mais combien on en a des histoires ? J'en raconte une, la plus, je ne sais pas si c'est la plus connue, mais pour moi, la plus connue. La fameuse histoire de un jour, le Baal Shem Tov reçoit la visite d'un ange qui lui dit « Est-ce que tu as envie de savoir à côté de qui tu seras au Gan Eden pour l'éternité ?» Baal Shem Tov lui dit « Banco !» Il dit « Très bien, dans le village là-bas, village à côté, dans la dernière maison, la maison la plus cassée, la plus pourrie, habite un homme, et c'est là-bas. C'est lui qui sera ton voisin de palier du Gan Eden pour l'éternité. » Et là, le Baal Shem Tov décide d'aller lui rendre visite. Et c'est là que je mets une parenthèse. Comment vous savez si une histoire chassidique est vraie ou fausse ? Eh oui. Eh bien, il y a deux éléments. Que s'ils sont présents, l'histoire est vraie. S'ils ne sont pas présents dans l'histoire, vous savez que c'est un charlatan qui vous raconte. C'est quoi ces deux événements ? Les deux éléments d'une histoire chassidique, c'est que un, il fait nuit, et deux, il y a une charrette. Si dans une histoire, il ne fait pas nuit et qu'il n'y a pas de charrette, c'est une fausse histoire. Et donc là, le Baal Shem Tov attend qu'il fasse nuit et il prend sa charrette. Donc vous savez que c'est une vraie histoire. Et il arrive dans le village d'à côté et il voit la maison au bout du chemin et il voit qu'elle est toute cassée et il toque et il y a un homme qui lui ouvre et il ne mange pas de pain. Et il commence à discuter un petit peu. Il se rend compte qu'il ne connaît pas grand-chose, cet homme-là. C'est lui, mon voisin de Gan Eden. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, cet homme lui dise « Écoutez, monsieur le rabbin, c'est l'heure de la prière. Excusez-moi, je vais aller prier. » Et là, il se dit « Ah, voilà le secret. Il doit faire une prière extraordinaire. » Et là, l'homme se met dans la pièce d'à côté, il ferme la porte, le Baal Shem Tov tend l'oreille pour essayer d'entendre les cavanotes de la tefila, jusqu'à ce que cet homme dise « Aleph, Bet, Gimel, bon, je ne vais pas vous faire toutes les lettres, Shin, Tav. » Et une fois qu'il a dit les 22 lettres de l'alphabet, eh bien, il sort et il dit « Ça y est, j'ai fini. » Et là, le Baal Shem Tov dit « Comment ? C'est ça, ta tefila ?» Et il lui dit « Écoutez, monsieur, mes parents sont morts, j'avais 5 ans. Je suis orphelin et la seule chose qu'ils m'ont apprise, c'est l'alphabet, l'alphabet. C'est tout ce que je sais. Mais je me dis que si Dieu est Dieu, alors il saura prendre mes lettres et en faire des mots. Et il saura prendre mes mots et en faire des phrases. Et il saura prendre mes phrases et en faire des tfilotes et des prières. » Et le Baal Shem Tov lui répond « C'est la plus belle tfila qu'on a jamais entendue. Et voilà pourquoi je serai ton voisin de palier de Gan Eden pour l'éternité. Parce que c'était la tfila qui venait le plus profond de notre cœur. Tov, c'est Hamoud. Je suis persuadé que ça n'a pas existé, cette histoire, vous comprenez bien. Mais c'est quoi la chassidoute? La chassidoute, c'est l'endroit où tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu au plus profond de ton cœur et non pas au plus profond de ta tête. Et ça va être ça, comme on a dit la semaine dernière, le Gaon de Vilna, il va sortir en guerre contre ça, mais c'est ça qui va permettre aux chassidim de développer aussi une tête et avoir une Torah incroyable. Mais à l'origine, le but est de s'attacher à ta neshoumé, de t'attacher à ton intériorité. D'ailleurs, lorsqu'on parle de cela, les amis, eh bien, c'est toute la question que j'ai posée tout à l'heure. Est-ce que le Baal Shem Tov fait partie des Mekoubalim? Car la chassidout n'est pas de la Kabbalah. Enfin, la chassidout utilise le langage de la Kabbalah et utilise les enseignements de la Kabbalah, 100%, pour les traduire au niveau individuel. Vous l'aurez compris depuis qu'on étudie avec le Rav Yoel, avec le Rav Cherki, et à mon tout petit niveau, à mon niveau, mais vous aurez compris que la Kabbalah, ça parle au Klal. La Kabbalah, c'est la succession de la Nevoa qui parle à la collectivité, qui parle à Klal Israël. La Chassidut va prendre la Kabbalah et va la traduire, la transposer au niveau de l'individu. D'accord ? Donc Rabbeinu Israël Baal Shem Tov va tout simplement lancer, ouvrir cette nouvelle fenêtre. Et ça, c'est fantastique. On a retrouvé, comme je vous ai dit, maintenant on est sûr de sa réalité historique à Monsieur le Baal Shem Tov, mais son enseignement, qu'en est-il ? On dit que le Baal Shem Tov est le fondateur de la Torah de la Chassidut. C'est complètement faux au niveau historique. Le Baal Shem Tov, à aucun moment, n'a voulu créer une école de pensée juive. Il n'a pas créé de mouvement. On ne peut pas parler du Baal Shem Tov comme étant le fondateur du mouvement chassidique. Car ce n'est pas du tout lui qui va lancer un véritable mouvement. Ça va être ses élèves, et particulièrement un de ses élèves. Mais le Baal Shem Tov lance quelque chose. Le Baal Shem Tov, tout ce qu'on peut retrouver dans le livre Keter Shem Tov, dans la Kabbalah, il y a aussi un rapport à l'individu avec les Kavanot. Pouvez-vous expliquer un petit peu cette idée ? Oui, je peux expliquer cette idée. Les Kavanot de la Kabbalah, c'est comment est-ce que, justement, c'est l'inverse. Comment est-ce que l'individu, moi, dans ma tfila, je m'attache au Klal ? C'est exactement de cela dont on parle. C'est complètement l'inverse. Les Kavanot du Hari, c'est comment est-ce que moi, je peux m'attacher à toutes les générations. Alors que la Chassidut, c'est comment est-ce que toutes les générations me parlent à moi. C'est complètement l'inverse. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire. Voilà, c'est le moment inverse. Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire. C'était nécessaire à l'époque et encore aujourd'hui. C'est un complément magnifique. Mais c'est autre chose. D'accord ? Maintenant, dans le livre Keter Shem Tov, eh bien, on va pouvoir voir que le Baal Shem Tov disait de lui qu'il était lui-même un Gilgoul. Pour nous expliquer que sa Torah n'est pas toute neuve. C'est intéressant parce que c'est un Gilgoul de qui ? Eh bien, le Baal Shem Tov nous dit de lui-même qu'il est le Gilgoul de quelqu'un qui disait que le Gilgoul n'existait pas. Hey, tu parles d'un retour de bâton. Parce que le Baal Shem Tov nous dit qu'il était le Gilgoul de Rabbeinu Saadia Gaon, qui s'est battu contre Torah Tagilgoulim. Malastot, pas de bol. Rabbeinu Israël Baal Shem Tov va avoir deux grands élèves. Deux très grands élèves. Le premier s'appelle Rabbi Yaakov Yosef Mipolna. Rabbi Yaakov Yosef Mipolna va être véritablement le premier grand élève du Baal Shem Tov. Eh bien, Yaakov Yosef Mipolna, c'est lui qui va développer ce style chassidique où tu t'attaches au tzaddik. Le lien avec le tzaddik, eh bien, c'est quelque chose que, voilà, c'est lui qui va véritablement développer. De là, toutes les cours chassidiques vont se revendiquer. Pashut. Aujourd'hui, tu ne peux pas étudier la chassidoute sans avoir un lien nafshi, nishmati, avec le rav que tu étudies. C'est l'un des grands principes de Torah Tachassidut, que le tzaddik est un tsinor, que le tzaddik est un tuyau qui te rattache, est un câble qui te rattache à Kadosh Baruch Hu. Bah, deux secondes. Les gens, ils posent des questions dans le chat, ils sont trop pressés. Deux secondes. N'ai-je pas dit que le Baal Shem Tov avait deux grands élèves? Donc, si je parle de Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, et que toi, tu me dis, mais c'est qui le Maguide? C'est qu'il y a de fortes chances que ce soit le deuxième. Bekitsu Rabotai, vous m'avez retrouvé? Il y a un mec qui m'a téléphoné, mais c'est bon, tout va bien. Quoi qu'il en soit, Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, eh bien, c'est lui qui va mettre en place cette dimension du tsinor de ma relation avec le tzaddik. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes chassid X, je dis X parce que comme ça, on ne rentre pas dans le débat de quel chassidout, vous avez énormément de mal à étudier les enseignements d'une autre chassidout. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Si moi, par exemple, j'ai aucun problème d'aller étudier le Tanya, ensuite d'aller étudier le Kdushat Levi, ensuite d'aller étudier une autre chassidout, pour le chassid Chabad, c'est très dur de sortir de Chabad. Pour le chassid de Rougine, c'est très dur de sortir de Rougine. Et ainsi de suite, parce qu'il y a une connexion au niveau de ma Neshama avec le tzaddik, avec le fondateur de cette cour chassidique. Donc c'est à double tranchant. D'un côté, je m'attache à celui qui est connecté à Dieu, mais d'un autre côté, je peux m'attacher donc à lui. C'est-à-dire, il y aura deux grandes écoles de pensée, ça sera plus tard, entre ceux qui vont mettre tous leurs liens avec le tzaddik et celui qui essaye de ramener le juif à son lien personnel avec HaKadosh Baruch Hu. Dans les faits, ça ne marchera pas. Mais ça, on en reparlera la prochaine fois. Bekitsour, donc Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, qui va écrire un livre fondamental qui s'appelle Toldot Yaakov Yosef, de Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, et qui va tout simplement expliquer et mettre en place quels sont les différentes écronautes, les différentes idéologies de la chassidut. C'est vraiment plus qu'un commentaire de la Torah, c'est l'explication de qu'est-ce que c'est la chassidut. Ah, j'ai pas vu la question. Excusez-moi, ça a été trop rapide. Bekitsour, bon, on y reviendra juste après. Mais, que ce soit le Baal Shem Tov ou Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, ce n'est pas ni l'un ni l'autre qui sont les véritables fondateurs de Torah Tachassidut. Les véritables fondateurs de Torah Tachassidut en tant que mouvement, en tant qu'école de pensée, eh bien, vous l'aurez compris, c'est Rabbeinu Dov Ber Mimezritch, plus connu sous le nom Amagid Mimezritch. Le Maguid Mimezritch, c'est l'élève numéro un du Baal Shem Tov qui va devenir l'élève numéro un quand même. On a dit Rabbi Yaakov Yosef Mipolna, il est plutôt élève du Baal Shem Tov. Mais lorsque le Maguid arrive, eh bien, ça y est, le Maguid prend la place d'élève et surtout de successeur. Alors, le Maguid, rien ne le destinait à être chassid. Parce que le Maguide de Meseritch a étudié et a commencé sa route vers la Torah dans le mouvement qu'on pourrait appeler le mouvement Litaï. Litaï complètement. Puisque il est l'élève et il va grandir chez Rabbi Yaakov Yoshua Falk. Vous connaissez évidemment le Rabbi Yaakov Yoshua Falk. Hein, bien sûr. Ou alors, vous connaissez peut-être mieux son livre. Son livre, Pene Yehoshua. Le livre Pene Yehoshua, qui est un livre fondamental dans l'enseignement de la Torah, qui a d'ailleurs été écrit là où je me trouve actuellement, qui a été écrit dans la ville de Metz. Eh oui! En tout cas, le petit Dov Ber n'est pas du tout, ne prend pas du tout le chemin de la Chassidoute. Au contraire. Il est un érudit incroyable, mais il n'est pas du tout dans le style de la Chassidoute. Il est d'ailleurs beaucoup plus dans le style de la Kabbalah classique. Et puis à un moment donné, eh bien, il va entendre parler de ce monsieur dont tout le monde commence à avoir son nom sur la bouche, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Et il décide d'aller lui rendre visite. Il décide d'aller lui rendre visite. Et lorsqu'il lui rend visite, c'est une désillusion incroyable. Tout d'abord, il fait le voyage jusqu'à Mejibouge, et c'est un voyage très compliqué. Et lorsqu'il arrive, il demande à voir le Baal Shem Tov. On le fait attendre longtemps. Et lorsque finalement, il voit le Baal Shem Tov, il commence à lui poser des questions et le Baal Shem Tov lui répond que par des histoires à dormir debout. C'est ça la Torah de ce monsieur? C'est ça l'histoire? Mais enfin, de quoi on parle? Mazé. Finalement, il veut repartir chez lui directement à Meseritch. Son cocher lui dit que ça va être très dangereux de partir pendant la nuit, on attendra demain. Et finalement, il passe encore une nuit et il dit, je vais donner une deuxième chance au Baal Shem Tov. Il retourne chez lui et il lui re-explique des histoires à dormir debout. Et cette fois, il veut partir vraiment. Mais juste avant qu'il monte dans la calèche pour partir, le shamash du Baal Shem Tov l'appelle et lui dit, le Baal Shem Tov voudrait te revoir une dernière fois. Et lorsqu'il rentre avec lui, il lui dit, j'ai pas compris, tu sais étudier un petit peu? Et le Magui lui dit, oui, tu connais un petit peu la Kabbalah? Il dit, oui. Il dit, tu peux me lire et m'expliquer ce qu'il y a marqué là dans le livre Etzraïm? Alors, il commence à lire, à expliquer. Et le Baal Shem Tov lui dit, oui, c'est très bien ce que tu as expliqué, tu as très bien compris ce qu'il y avait marqué. Mais tu ne le vis pas. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov est en train, reprend le texte, le réexplique. Mais à chaque phrase qu'il dit, il y a une flamme qui jaillit du corps du Baal Shem Tov, jusqu'au moment où c'est un feu dévorant qui entoure les deux hommes. Et il voit les Neshamot du Harizal, de Rabbi Chaim Vital, des Tanaïm, des Amoraïm. Et à ce moment-là, le Maguide comprend que le Baal Shem Tov est en train de tout simplement se connecter avec toutes les Neshamot de ce qu'il enseigne. Ce n'est plus une transmission orale, mais c'est la vie qui transite par lui. Et le Maguide décide qu'à partir de là, ce sera son maître, et le Baal Shem Tov va le préparer comme étant son successeur. Les amis du Maguide de Meseritch, ben là aussi on n'a pas grand-chose en tant qu'écrit clair. Même si on a retrouvé, il n'y a même pas 2 ans, des écrits à la main du Maguide qui sont sortis dans un livre absolument extraordinaire qui s'appelle « Dovrout à Maguide ». Dovrout à Maguide, où il y a des vraies perles, mais c'est décousu, c'est complètement décousu, ce n'est pas du tout ordonné et structuré, mais on a pris toutes ces kitveyades qu'on a retrouvées du Maguide et on les a mis dans ce livre-là. En tout cas, le Maguide de Meseritch, va être celui qui va lancer la tnouat à Chassidut. C'est lui qui va lancer l'école de pensée chassidique. Et comment est-ce qu'il va faire ça? Eh bien, il va faire ça tout simplement en amassant des élèves autour de lui, mais que chacun de ses élèves, il le mettra comme étant responsable d'un sujet. Et en cela, on va commencer à créer des écoles, des cours chassidiques. Puisque en fait, les élèves qui sont autour de la table sont chacun plus dirigés vers quelque chose. Et résultat des courses, on va avoir plus tard des chassidouyotes, ce sera le cours d'après, des chassidouyotes qui se concentrent sur d'autres choses. Et quand tu regardes la chassidoute de Chabad, elle n'a rien à voir avec la chassidoute de Rougine, par exemple. Mais ça, on verra beaucoup plus tard. Bekitsour, Rabbeinu Israël, Rabbeinu Dov Ber, Mimezerich, eh bien, si on veut essayer de comprendre quel va être le grand combat de sa vie, eh bien, le grand combat de Rabbeinu Dov Ber, c'est de pouvoir aller toucher chaque juif. Et pour ça, il y a une nécessité qui est très terre à terre, et c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. On va commencer à mettre en place des shlichim pour aller enseigner la Torah partout. Jusqu'à présent, il y avait le rabbin qui avait son élève, l'élève prenez la suite du rabbin, soit dans la ville du rabbin, soit chez lui. Et les gens, ils ont envie de venir, ils viennent. Ils n'ont pas envie de venir, ils ne viennent pas. Mais le Maguid va former une dizaine, une quinzaine d'élèves qu'il enverra un peu partout. Résultat des courses, on veut que une majorité, un plus grand nombre de juifs puissent être connectés à cette Torah Tarassilut. On dira du Maguid de Mezerich que de la même façon que Elisha Navi va avoir une influence double sur le peuple juif par rapport à son maître Eliyahu Navi, et bien de la même façon le Maguide va avoir une influence double sur le peuple juif que son maître, le Baal Shem Tov. Tov, nounou, Sheyel Abriout. Mais quelle est cette influence particulière? Eh bien, le Maguide de Mezerich va avoir comme influence que ce n'est pas parce qu'on part dans les Olamot. Et ce n'est pas parce qu'on essaie de reconnecter le juif Pashut qu'on va être mésalzel, qu'on va être laxiste par rapport à la halakha. C'était le grand danger de la chassidut, c'était de partir complètement à l'envers. C'était de partir et d'être complètement déconnecté de la transmission halakhique de qu'est-ce qu'on fait. Car le danger, quand on se connecte à qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on pense, c'est de ne plus être connecté à qu'est-ce qu'on fait. Et vous le savez comme moi que vous avez certainement des choses qui vous viennent à l'esprit parmi les agissements de certains chassidim qui vous choquent au niveau de la halakha. Et il faut bien faire la distinction entre les gens aujourd'hui qui ne connaissent pas vraiment et les véritables enseignements de la chassidout qui tous, même les pratiques les plus bizarres, ont de quoi s'appuyer au niveau de la halakha. Tous. Je me souviens, pour l'anecdote, que ma femme vient d'une famille Chabad et qu'on avait fait les Shiva Brachot après notre mariage. C'était marié un jeudi soir. On avait décidé de rester tous ensemble, les deux familles, dans le même hôtel pour le Shabbat, passer le Shabbat tous ensemble. Et on avait à peine Minyan entre nous. Donc on a dit, on fait un Minyan entre nous le Shabbat. Et on avait décidé que la Tfila commencerait à 9h30. Ça va, c'est pas trop tôt. Et il est 10h, et il n'y a que mon côté de la famille qui est présent. Et tout le côté de la famille de ma femme, donc la moitié du Minyan, n'est pas là. Et on ne sait pas quoi faire. Et je dis, mais vous inquiétez pas, moi je sais où ils sont. Allez voir au petit-déj. Eh oui, puisque Chabad, il mange avant la Tfila. Alors, va les voir, je suis sûr qu'ils sont là-bas. Mais comment c'est possible de manger avant la Tfila? C'est interdit, c'est marqué dans le chemin de roue, c'est interdit. Effectivement, on les a trouvés en train de faire un copieux repas du petit-déj. Mais sur quoi s'appuie-t-il? Est-ce que c'est son stam des gens qui ont décidé de manger parce que c'était plus important de manger que de prier? Ou est-ce qu'il y a une très très longue tchouva du Admour HaZaken sur l'importance de redonner au corps sa force avant de pouvoir faire la tfila? C'est un exemple parmi tant d'autres, évidemment. La Torah de la Chassidoute, c'est quoi? Comment est-ce que je devrais résumer cela après avoir parlé pendant 45 minutes du Baal Shem Tov, de Rabbi Yaakov Yosef Mipolna et du Maguid de Mezerich? Il y a un troisième personnage, juste avant de résumer la Chassidoute, qu'on est obligé d'évoquer également, évidemment. Bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk. Car Rabbi Menachem Mendel Mivitebsk, qui lui aussi est un élève de la Chassidoute, c'est celui qui va guider en 1777 les Chassidim en Eretz Israël. Et oui, car l'une l'un des grands axes de la Chassidoute, ça va être aussi, bien qu'on l'ait oublié, parce que la Chassidoute pour nous, c'est la Pologne, c'est l'Ukraine, mais l'un des grands axes de la Chassidoute dans ses balbutiements, c'était le retour en terre d'Israël également. Alors, c'est quoi la Rabotai et la Chassidoute? La Chassidoute, c'est le cœur, c'est l'étincelle. C'est ce qui va me reconnecter avec, pas les actions, mais le petit truc en moi qui fait que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il m'a demandé de faire Shabbat, il me l'a demandé à moi. Que ne pas demander au peuple juif de faire Shabbat, et je suis une expression du peuple juif, mais il m'a demandé à moi. Il y a dans la Chassidoute une proximité avec Akadosh Baruch Hu, qu'on ne trouvait pas jusqu'à maintenant, ni dans le monde de la Halakha, ni dans le monde de la Kabbalah. C'est peut-être ça qui est l'union de Avinu Malkenu. Si le Gaon de Vilna est le représentant parfait du rapport à Dieu comme étant Malkenu, le Baal Shem Tov est le représentant parfait de ma relation à Dieu en tant que Avin. Et je terminerai par cette phrase incroyable que m'a dit un jour un non-juif lors d'un voyage en Pologne pendant plusieurs jours. On a parlé beaucoup, bon, évidemment de Shoah, mais on a parlé beaucoup de Torah, de Chassidoute. On était sur les terres de la Chassidoute. Et à la fin du voyage, eh bien, ce non-juif s'avance et dit, vous savez, je ne me convertirai jamais au judaïsme, mais à la Chassidoute, peut-être. Et voilà les amis, sur ce, vous pouvez ouvrir vos micros et les questions sont lancées. À vous de jouer.
Ah.
Oui.
Moi j'ai une première question. Pourquoi appeler la Chassidoute? La Chassidoute d'Afka, j'ai pas très bien compris. Oh, Chesed. Ah, ok.
Donc, je vais le dire. Pourquoi est-ce que ça s'appelle la chassidut? Vous l'aurez remarqué, le terme chassidut n'a pas du tout été inventé par le Baal Shem Tov. Le terme chassidut existe déjà d'abord dans la halakha. Chassid, c'est celui qui fait plus que le tzaddik. Ça, on va le voir déjà chez Ramchal. Donc déjà avant le Baal Shem Tov, il y a une autre dimension du chassid. Le chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on lui demande. Mais il y avait une autre version de la chassidut bien avant, qu'on appelait les chassidés ashkénazes du 12e siècle et 13e siècle. Et c'est quoi les chassidés ashkénazes? Eh bien, on l'a étudié ensemble. Chassidés ashkénazes de Rabbi Yehuda Hassid, eh bien, c'était des gens qui ne se contentaient pas, cette fois pas de la halakha, mais qui ne se contentent pas d'une étude classique, mais qui veulent également une étude qui rattache l'ésotérisme. Donc, chassid dans le sens, je rajoute en plus, mais alpi, a chesed a el. Chesed Ha'Elyon. Maintenant, la chassidoute, quand on parle des chassidim arishonim dans la Mishnah, ce sont les mekoubalim. Et donc, à l'origine, chassidoute, c'est quoi? C'est midat ha-chesed. C'est à yamin shel HaKadosh Baruch Hu qui amène la Géoula. Donc, c'est quoi la chassidoute? Eh bien, c'est Torah Ta-Géoula. C'est pour cela que lorsque le Baal Shem Tov nous dit qu'il a rencontré le Mashiach et qu'il lui a dit « Quand est-ce que tu viens ?» Il a dit « Lorsque ta Torah, lorsque tes sources sortiront à l'extérieur. » Et c'est pour ça qu'ils ont appelé cette Torah « Torat Hasidut ».
C'est pas un peu Gerba de s'appeler Hasid? Genre, je fais plus que les autres?
Est-ce que c'est pas un peu une Gerba? Alors d'abord, ça dépend qui appelle qui.
Il s'appelle le même Hasidim.
C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il n'a jamais appelé sa Torah, Torah Tachasidut, c'est venu après. Aujourd'hui, est-ce que ce ne serait pas un peu Gava? C'est surtout un problème aujourd'hui d'incompréhension. C'est parce que tout le monde peut être chassid, mais il ne faut pas oublier qu'il faut d'abord être sadique. Donc moi, je n'ai pas de problème que tout le monde devienne chassid, mais mon problème, c'est que les gens aujourd'hui, ils foncent sur la chassidut, comme des fois sur la Kabbalah, mais ils n'ont pas les bases de l'accomplissement. C'est-à-dire, comme tu dis, tu sais très bien, le Rav Yoel Ben Arosh, il dit tout le temps que tous les enseignements de la Kabbalah, s'ils ne sont pas accompagnés des mises en pratique au niveau de la halakha, ça ne sert à rien, ça ne veut rien dire. Donc moi, je n'ai pas de problème que tout le monde soit chassid, mais il faut d'abord qu'on fasse ce qu'il faut faire.
Alors, question de Meira. Meira, votre micro.
Bonjour, Arav. Moi, j'ai deux problèmes. Enfin, j'ai deux questions. D'abord, je ne vois pas très bien comment on peut se rattacher au tzaddik sans le connaître. Parce que la vérité ne le connaît pas. Personne n'était si proche du tzaddik, ça c'est un. Donc, c'est une figure qui était interprétée par un troisième qui prétend ce que c'est que le tzaddik. Mais la majorité des Juifs ne connaissent pas le tzaddik. C'est plutôt un mouvement qui suit aveuglément les directives du Mahdi. Enfin, ça, c'est ce que je crois. Et puis, je me rappelle la phrase du Rav Shach, c'est Rono Ibrahim, qui disait sur Chabad que c'était la secte qui se rapproche le plus du judaïsme. C'est pas rien de dire ça.
Alors, je vais vous répondre. Justement, j'entends dans vos paroles que vous êtes influencé par la chassidut Chabad. C'est-à-dire, quand vous me dites la majorité des gens ne connaissent pas le tzaddik et ils sont juste embarqués et aveuglés par les décisions d'un bonhomme, ce n'était pas du tout comme ça. Il faut bien comprendre. À l'époque de la chassidut, des débuts de la chassidut, tous les chassidim sont en contact rapproché de leur maître. Est-ce qu'ils y apprennent bien ou pas bien? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a un contact physique entre le maître et les élèves. Donc, il y a, oui, cette dimension de « je me connecte à la personnalité du rav ». Donc, ça existait. Après, vu que la chassidoute, elle a marché et qu'il y a eu des milliers et des milliers et des milliers d'élèves, après, c'est vrai que c'est compliqué. Quand tu es une chassidoute qui a 200 000 personnes, tout le monde n'a pas le contact privilégié avec le rabbin. Tout à fait. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier que les élèves du Maguid de Mezritch, il y en a 10, 15. Donc, à 15 personnes, tu peux avoir un contact avec le Maguid. Et après, les élèves du Admor Hazaken, il y en a peut-être 10 aussi. Donc, les 10 élèves du Admor Hazaken, ils sont en contact avec le Admor Hazaken, et ainsi de suite. C'est beaucoup plus tard que tout d'un coup, les cours chassidiques vont grandir, 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 grandir. Et à ce moment-là, effectivement, tout le monde n'a pas forcément le lien avec le Rav. Donc ça, c'est évident que c'est un problème. Après, si tu n'as pas le lien avec le maître, c'est un vrai problème. Maintenant, pour ce qui est du Rav Char, Benenu, je ne vais pas pouvoir réagir de manière posée. Parce que l'opposition du Rav Char au Rabbi de Lubavitch n'était absolument pas rationnelle. Elle n'était absolument pas, non seulement rationnelle, mais en plus, absolument pas fondée. C'est-à-dire que tout ce que le Rav Char a dit sur le Rabbi de Lubavitch était faux et archi-faux. On a retrouvé exactement les mêmes attaques qu'il y avait à l'époque du Gaon de Vilna contre le début de la Chassidoute. Et comme on a dit la semaine dernière, les gens, tout simplement, ne savaient pas. Il y avait plein de « on dit » et il y avait plein de choses. Donc, les amis, c'est un petit peu compliqué. Le Rav Char était extrêmement opposé à tout ce qui n'était pas le Rav Char. Pardon ? C'est une phrase qui ne veut absolument rien dire. Je suis désolé de vous le dire. Je vous explique. La notion de Gadol Ador n'existe pas dans le judaïsme. Ça ne veut rien dire, Gadol Ador. Pour la simple raison que je ne sais pas dans quel magasin vous avez réussi à trouver votre rabbinomètre. Si vous l'avez, dites-moi l'adresse, j'irai l'acheter aussi. Pour décider de mesurer qui est le plus grand. Qui est le plus grand. Ça ne veut rien dire, Gadol Ador. Le Rambam, à son époque, était évidemment certainement le plus grand de sa génération. Et pourtant, eh bien, c'est toujours pas toujours lui qui avait raison dans tous les débats. On ne possède pas la halakha toujours comme le Rambam. Et pourtant, c'était le Rambam. Le Rav Char était suivi par... Il était le maître du monde litaï.
Oui.
Uniquement du monde litaï. Il n'était pas du tout le maître du monde de la Chassidoute. Il n'était pas le maître de la Kabbalah. Il ne connaissait pas la Kabbalah. Il n'avait jamais étudié la Kabbalah. Il n'était absolument pas non plus le maître du monde sioniste religieux. Je vous rappellerai tout de même que si vous me sortez des phrases comme la Chassidoute, la secte la plus proche du judaïsme, le Rav Tzvi Yehuda Kouk appelait le Rav Char « Amebalbel Ameboulbal Mibnebrak ».
Ah bon, ça, je ne savais pas.
Ce qui est pas non plus extrêmement valorisant. Donc le Rav Char était un grand dans la Torah, sans aucun doute, un Talmid Raham énorme, mais qui avait un énorme problème par rapport à la Chassidoute en tant que tel, sans aller voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est un vrai problème, et surtout quand on regarde aujourd'hui les enfants spirituels du Rav Char, qui parlent avec un Lashon Hara fantastique sur les mondes qui ne sont pas les mondes de la Yeshiva Litaït, très souvent, malheureusement, sans connaître la réalité du terrain. Et ça, c'est très malheureux. Maintenant, le Rav Char, c'est important qu'il soit un opposant au Rabbi à ce moment-là. Encore une fois, ça permet et au Rabbi et au Rav Char de s'ouvrir et d'essayer de comprendre ce que l'autre veut. Est-ce qu'ils l'ont bien fait ou pas ? Ça, c'est un autre problème.
Ok, merci.
Arav, il est 10h00 et 25 secondes. Voilà, je sais que le Rav Charki veut qu'on soit pointilleux, donc on est pointilleux.